Ghost Story.
Bonjour et bienvenue sur AnthroStory. Vous le savez peut-être si vous nous suivez sur Facebook ou sur Twitter, nous relayons un bon paquet d'articles, souvent en anglais, qui parlent d'anthropologie dans le sens large. Notre problème, c'est que vous êtes relativement peu à nous suivre sur les réseaux sociaux, et il s'agit souvent d'articles plutôt longs, qui ont parfois des titres un petit peu chiants, mais qui sont super intéressants. Comment faire pour que vous en entendiez parler? Comment faire pour que vous les consultiez? Comment faire pour que, même sans les lire, vous sachiez ce qu'il y a d'important à savoir sur l'anthropologie? Eh bien nous, on sait faire du podcast et on essaye d'écrire relativement bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous sortir des sortes d'anthro-news, des articles, des livres qu'on a aimés, tout ça en individuel. Parfois ce sera moi, parfois ce sera Julie, et ce coup-ci, c'est moi. Comme ça se situe dans un format un petit peu spécial qu'on prête plutôt à ce qu'on appelle l'audio-blogging et pas vraiment du podcast et que ça reste quelque chose de très écrit, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est utile, si vous trouvez que c'est chiant à écouter, etc. Nous, ça nous intéresse de savoir. On va de toute façon le faire sur quelques épisodes pour voir justement si ça nous plaît de le faire aussi. Mais notre but, ça reste de se dire il y a une masse d'informations qui est créée chaque semaine, même en anthropologie sur Internet. Et malheureusement, comme c'est en anglais, comme c'est très long, beaucoup d'entre vous ne les consultent tout simplement pas, et bien notre but, c'est d'en faire un relais au niveau audio, qui soit peut-être plus agréable à écouter, que ce soit en allant bosser, en allant à votre université, ou en tendant la pelouse, ça, on s'en fout, nous on vous apporte des informations qui sont super géniales, qu'on a trouvées super intéressantes, et on essaye de vous le faire du mieux qu'on peut. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Bon épisode.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Bienvenue sur AnthroStory, épisode spécial revue du web avec deux articles passionnants et un outil dont je suis tombé amoureux. Pour débuter, j'aimerais parler d'un article super intéressant, que je vais essayer de résumer même si c'est pas facile, il est plutôt long. Le titre, est-ce qu'un t-shirt peut être raciste? Pour la petite histoire, Seth Skerritt était super frustré de ne jamais trouver un t-shirt qui lui allait bien. Ou c'est trop court, ou c'est trop long, les manches ne vont jamais, le col non plus, c'est trop large par endroits et trop serré à d'autres, bref, la cata. Il a été en Asie et a découvert que là-bas, on pouvait avoir recours à un tailleur, qui prenait du coup très bien les mesures, et on pouvait avoir des t-shirts parfaitement à sa taille. De retour aux US, il se dit que ça doit pouvoir être fait simplement sur le web. Genre, tu commandes ton t-shirt, tu donnes ta taille, tes mesures, et le t-shirt est ensuite fait pour toi. Problème, on ne sait jamais comment mesurer, et les utilisateurs font souvent des erreurs, autant dans la mesure que dans la saisie des données. Ce qui revient au même au niveau frustration quand le t-shirt qu'on reçoit, du coup, ne nous va pas du tout. Mais le gars est malin, et il se dit qu'avec un bon algorithme, il est possible d'estimer la coupe du t-shirt idéal, avec des questions simples, genre taille, poids, etc. Dans sa première expérience, il a remarqué que sur 30 personnes, les résultats étaient pas top du tout. À part pour les caucasiens. Sous-entendu, les blancs. Et là j'avertis tout de suite, on part sur un sujet hyper complexe et quelque peu dérangeant. Donc ne criez pas au scandale, et allez lire l'article. Sachez aussi qu'à chaque fois que je vais dire blanc, noir, asiatique, hispanique, c'est bien entendu entre de très grosses guillemets et pour reprendre les mots de l'article. Il s'est dit que si son algorithme fonctionnait mieux avec les blancs, parce que le corps des blancs est différent de celui des noirs, alors il fallait juste ajouter une catégorie de plus dans son questionnaire, qu'il a appelé « ethnie ». Il a donc inscrit « asiatique »,« noir »,« blanc »,« hispanique » et « je ne suis pas sûr ». Chacune de ces catégories changeait légèrement la forme du t-shirt. Je pense que vous me voyez venir, c'est un peu dérangeant. De deux manières, principalement. La première, c'est que même si l'échantillon de 30 t-shirts est faible, la réflexion de Seth part d'une observation, qui est peut-être juste. Après tout, est-ce que c'est si fou de penser que la majorité des habits qu'on a sont créés pour être portés par des blancs et donc ont tendance à moins aller à d'autres populations? La deuxième, c'est que c'est quand même différencier les acheteurs de t-shirts en fonction de la « race », entre grosses guillemets encore une fois. L'article utilise un terme qui me semble meilleur, qui est « ancêtre génétique », mais ça demanderait beaucoup plus de discussion. L'article cite au moins deux autres cas similaires et on va les reprendre. Le premier, Nike, en 2007, qui fait une ligne spéciale de chaussures pour, je prends la dénomination américaine pour éviter une traduction approximative, les « Native Americans », qu'on aurait tendance à appeler chez nous les « Amérindiens », avec toutes les imprécisions graves que ça inclut. Je reprends. Nike l'a fait après avoir mesuré 224 pieds à travers les US, mesure qui semblait montrer une forme de pied différente. Là, on a aussi, a priori, une observation scientifique qui semble montrer une différence dans la forme du pied. Et d'un côté, pourquoi pas, en plus ça part d'un bon sentiment, avoir une chaussure qui va bien à son pied, c'est plutôt agréable. Alex Goodman, un anthropologue, s'est exprimé sur la question. Par exemple, quel était l'âge des gens dont Nike a mesuré les pieds? Sachant qu'il est fort probable qu'une population âgée aura une forme de pied un peu différente d'une jeune population. Fait intéressant, les Native Americans ont un risque de diabète deux fois supérieur à la moyenne nationale. Autrement dit, Nike a-t-il fait des chaussures pour les Native Americans ou pour les diabétiques? On va revenir vers sa critique finale à la fin, allons vers le deuxième exemple. L'armée américaine, depuis la guerre civile, mesure la taille, le poids et l'indice de masse corporelle des recrues pour essayer de déterminer leur état de santé, renvoyer ceux qui sont inaptes et savoir quelle distance et avec quel poids elles peuvent marcher. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces datas sont devenues encore plus importantes. La guerre étant de plus en plus mécanisée, il fallait pouvoir déterminer si un soldat allait pouvoir entrer dans un tank ou dans un avion, ou s'il allait être trop grand pour soi, histoire d'avoir de bons soldats aux bons endroits. Dans ces datas, il y avait aussi la race. Chose que les anthropologues, comme la plupart d'entre nous, auraient fortement tendance à condamner. Mais le problème, c'est que si ces datas sont prises, si elles sont considérées comme importantes, c'est qu'il y a de vraies raisons. Prenons l'exemple des gilets pare-balles. S'il est trop court, on peut se prendre une balle dans le bide. S'il est trop long, on sera gêné pour courir. Ou alors imaginez un masque à gaz qui ne va pas vraiment à la forme de votre tête, donc pas étanche. Et c'est là que ces datas sont indispensables. En réalité, elles ne sont pas là pour déterminer quelle taille de gilet ou de masque ira pour chaque recrue, sachant qu'il y a des différences entre les individus. Ces mesures sont tout simplement là pour prévoir les stocks et les coûts à l'avance. Si l'armée doit acheter 20 000 gilets, qu'elle sait qu'il y a 15% de recrues noires américains, ils vont commander 15% de gilets qui vont à la moyenne mesurée chez cette population. Si les prévisions étaient erronées, l'armée aurait trop ou pas assez de gilets d'une certaine taille. Un autre exemple, c'est les crash tests de voitures. Les mannequins ne doivent pas uniquement être basés sur la morphologie moyenne des blancs, mais bien avoir des variations de taille, de jambes, de bras, pour que la voiture soit sûre pour tout le monde. Bon, là, j'avoue, j'ai fait exprès de vous présenter les choses de cette façon, légèrement différente que celle de l'article. Vous devriez à présent être convaincu qu'il y a des variations de morphologie entre les races. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, le concept de race est compliqué, en plus d'être faux. Alex Goodman signale qu'en partant du Portugal, à pied, en allant au Japon, il nous serait impossible de juger du moment où on passe en Asie par rapport à l'apparence physique des gens. On verrait, c'est clair, du changement au fil des kilomètres, mais rien de marqué, aucune frontière, c'est imperceptible. Bon, ça c'est évident pour tout le monde, bien entendu, c'est juste un rappel, au cas où, on ne dit pas qu'il y a différentes races humaines, il n'y en a qu'une seule, mais qu'il y a des différences morphologiques dépendant de nos ancêtres génétiques. Sachez que les exemples aujourd'hui se multiplient, comme les lunettes marquées Asia ou coupe asiatique, qui sont censées être plus adaptées aux Asiatiques, ou encore des magasins de mode qui mettent les mannequins en forme moins classique. En bref, la question de l'article c'est, est-ce que c'est raciste de dire qu'une ethnie particulière, ou ce qu'on prend pour une ethnie particulière, a une tendance à avoir une forme de corps particulière? En fait, au-delà de cette question, et c'est là où c'est mind-blowing, c'est ce qui suit. Steph dit une phrase extrêmement intéressante, Steph donc le gars qui a fait sa vente de t-shirts sur internet, je cite « L'algorithme s'en fout de ce que vous êtes vraiment. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez que vous êtes. » Autrement dit, si un noir américain coche « noir américain », c'est parce qu'il s'identifie à cette catégorie, et il y a de fortes chances qu'il y corresponde dans une sorte de prophétie autoréalisatrice à la moyenne de cette catégorie. On peut aussi penser que si on lui dit « ce t-shirt a été fait 100% pour toi », psychologiquement, on aura l'impression qu'il nous va mieux que si on nous avait dit le contraire. Pour finir, juste un ou deux détails importants. L'exemple des t-shirts n'est pas une étude scientifique, et il y a de clairs biais à la base. Par exemple, il faudrait faire la même expérience, mais en enlevant ethnicité, des choix possibles, et voir s'il y a plus ou moins de retours de t-shirts pour cause de mauvaise taille, mais sur une très longue durée, avec un grand volume de t-shirts. Pour moi, comme pour l'auteur de l'article, un point intéressant est la différence de vue des races entre, d'un côté, la science et de l'autre, les compagnies privées. La science a statué depuis longtemps et c'est sans appel, il n'y a qu'une race humaine et c'est indiscutable. Par contre, dans le même temps, les compagnies privées entrent la race dans leurs paramètres, comme c'est le cas avec cette boutique de t-shirts, qu'il soit visible ou non, ça peut être un paramètre quelque part dans un algorithme qui est totalement invisible pour nous, en tant qu'utilisateurs, que ce soit pour calibrer leurs commandes, leur marketing, etc. Il faut certainement plus voir ça comme une catégorisation facile à faire, créer des groupes ayant des morphologies différentes et en estimer la population, que le voir comme du racisme de bas étage, mais ça mériterait probablement une discussion longue et passionnante. En tout cas, allez lire l'article, il est génialissime. Pour le deuxième article, on part sur du plus léger mais passionnant quand même. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas écouté notre génialissime épisode avec Luc Doyon, avec qui nous avions parlé du jeu Far Cry Primal, aux US, l'archéologie est comptée dans les quatre sous-disciplines regroupées sous anthropologie. C'est pour ça que je n'hésiterai pas à parler d'archéologie de temps en temps sur AnthroStory. Si je vous dis Lionhead Studio, ça vous dit quelque chose? Black and White? Fable? Non? Bon, petit résumé éclair. Lionhead Studio est un développeur de jeux vidéo, fondé en 1996, avec le célèbre Peter Molyneux comme cofondateur. Ils ont créé Black and White et la série des Fables, avec un assez grand succès critique et des bonnes ventes. Le studio est racheté par Microsoft en 2006, se met à développer Fable Legend et ferme le 7 mars 2016. Quel rapport avec l'archéologie? Franchement, je ne voyais pas du tout. Et heureusement qu'Andrew Reinhardt, du blog Archaeogaming, l'explique dans son article. Sur son blog, il s'intéresse à l'archéologie dans et autour des jeux vidéo et essaye de penser l'archéologie du jeu vidéo. C'est absolument passionnant, allez y faire un tour. Pour revenir à l'article, les premières questions qu'il se pose sont sur les jeux en eux-mêmes, leur conservation. Un jeu n'est pas libre de droit, même si la société qu'il a édité a fermé et cependant potentiellement longtemps. Il y a un moment où ces jeux sont susceptibles d'arriver dans la catégorie Abandonware, une catégorie étrange où le copyright peut être valide mais ignoré par le détenteur de droits, souvent parce que ce sont de très très vieux jeux. Et oui, c'est important, le jeu Black and White, par exemple, étant de plus en plus difficile à trouver, d'où un risque de perte totale de certaines créations. Autre question, que se passera-t-il avec Fable Legend? Le jeu n'est pas fini, son développement a été arrêté, mais Microsoft en garde la propriété intellectuelle. D'autant plus que sa reprise par un autre studio est, au mieux, très hypothétique. Ce jeu va-t-il tout simplement disparaître? Hors du jeu, quoique pas tout à fait. On peut se demander ce que va faire Microsoft avec tout le matériel encore existant. Storyboard, carnet de dessin, carnet d'écriture, recherche artistique, etc. Qu'est-ce qui va être gardé? Qu'est-ce qui va être détruit? Comment Microsoft va choisir? Qu'est-il nécessaire de préserver et pourquoi? Même question pour l'endroit physique où était localisé Lionhead Studio. Que va-t-il rester physiquement du studio dans un an? Dans 5 ans? Est-ce que ces bâtiments ont une importance, sachant que ce qu'ils produisaient était « virtuel » entre guillemets? Et puis ces bâtiments, ne sont-ils pas le reflet de notre époque, de notre façon de travailler, de vivre? Même si aujourd'hui il y en a plein, ne doit-on pas en préserver pour des générations futures? Bon, vous le voyez, ce ne sont que des questions, majoritairement, sans réponse actuelle. Mais ces questions ont une importance. Nous reprochera-t-on, dans le futur, de ne pas avoir préservé des lignes de code ou des artworks de jeux vidéo? On s'acharne à préserver de très vieux bâtiments, mais ne devrons-t-on pas aussi s'acharner pour préserver un vieux kiosque, une vieille cabine téléphonique ou le dernier cybercafé d'une région? Fin de la petite review d'article, on passe à un outil que j'ai adoré. Je vous avertis tout de suite, je suis absolument et probablement beaucoup trop fan de l'outil que je vais vous présenter. Pour la petite histoire, nous sommes en phase de recherche pour une série d'épisodes qui paraîtront sans doute en fin d'année sur AnthroStory. Donc, j'ai mes sources devant moi, mes gros livres, plein de liens sur le net, etc. Comme dans tout travail de recherche, finalement. Mais j'ai un problème. Il y a plein de zones géographiques différentes, ça va encore, mais surtout plein de dates. Énormément de dates. Si j'arrive à suivre la ligne du temps d'un peuple ou d'une région particulière relativement bien, dès que plusieurs chronologies se mélangent, c'est la catastrophe. Je ne me souviens plus qui est arrivé où et quand, si tel voyage a été fait avant ou après un autre, c'est un bazar dans ma tête et tout se mélange. Pas pratique du tout. D'autant plus que certains livres reviennent sans arrêt en avant et en arrière dans le temps, ce qui finit de m'achever. J'avais ma petite solution à moi. Un carnet tout joli, dans lequel j'inscris mes dates et mes notes. Ensuite, je copiais les notes sur un Google Doc, et là, j'essayais de remettre en ordre la chronologie en copiant, collant mes dates et le texte qui allait avec. Mais autant vous dire que c'est pas fonctionnel à partir du moment où on a plus d'une dizaine de dates. Et c'est là que, par un pur hasard, je vois le flux de Savage Mind se mettre à jour avec un article qui titrait « Tools we use, Aeon Timeline 2 ». Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, Savage Mind est sans doute le plus gros blog d'anthropologie. Un collectif se cache derrière depuis 10 ans et ils font un travail remarquable. Ils sont responsables de pas mal de mes achats compulsifs de livres d'anthropologie. L'auteur de cet article avoue son addiction au timeline, ces tableaux où on a une ligne de temps et où les événements sont faciles à voir et où l'enchaînement des choses apparaît clairement. Une chronologie sur papier. Sur papier, c'est hyper galère à faire, et surtout si on oublie un truc en plein milieu et qu'on n'a plus place, et ben c'est foutu, il faut tout recommencer. Mais on est en 2016, donc vive l'informatique qui résout tous nos problèmes. Enfin, surtout nos problèmes de timeline. Pour faire simple, vous avez une grosse ligne de temps et vous entrez vos dates, les personnages, les lieux, les sources qui sont reliés à ces dates-là, et le programme se charge de vous les placer en temps réel, automatiquement sur la timeline. Vous pouvez ensuite exporter vos timelines en images, voire les intégrer sur votre site web. Je l'ai fait avec mon gros livre, et c'est absolument génial. Je vois les événements se succéder, ce qui m'aide à l'écriture des épisodes par exemple. Je vois les imprécisions de temps qui posent problème, où est-ce que je dois chercher des informations. Je peux aller vérifier facilement si les dates sont correctes, parce que je les ai directement sous les yeux, je peux aller chercher une deuxième source sur ces dates-là. Je peux voir les corrélations entre certains événements qui n'ont pas eu lieu au même endroit, les dates qu'il faut rajouter, bref, c'est le top du top. Pour ceux qui sont aux études, c'est aussi une superbe manière de réviser, vu qu'on peut mettre des annotations complètes pour chaque événement et ainsi avoir une vision globale d'une situation. J'imagine aussi que ça peut être utile à un prof pour son enseignement, je mettrai à disposition les timelines que je vais créer si ça vous intéresse. Comme je suis fan, je n'ai aucune vraie critique à faire. J'ajouterai que si vous écrivez de la fiction, c'est top pour voir la succession d'événements de votre histoire, vérifier si un personnage ne se déplace pas trop vite entre deux endroits, ou s'il est même à deux endroits à la fois, ce qui arrive dans les mauvais films, voir s'il manque des scènes par exemple. Vous pouvez aussi mettre des événements en relation, c'est un outil ultra complet. Il est à $50, ce qui est probablement trop cher pour la plupart d'entre vous, mais ce qui est génial sur internet, c'est que vous pouvez souvent trouver des coupons pour l'avoir à $25. N'hésitez pas à faire des recherches sur Google style Aeon Timeline 2 Discount ou Aeon Timeline 2 Coupon et vous trouverez probablement des codes, je l'ai trouvé, pour l'avoir à moitié prix. Et pour $25, c'est un outil ultra puissant parce que, autant vous dire qu'avec Excel, Word ou tous les autres trucs, c'est pas possible de le faire. Il y a des outils en ligne, gratuits, qui existent. Le problème, c'est toujours de revenir sur ces timelines que vous avez créées gratuitement, de pouvoir les modifier, etc. C'est beaucoup plus simple si vous avez le programme chez vous. Dernier point, vous pouvez faire une timeline par livre et vous pouvez ensuite mettre ces timelines ensemble. Ça rend un truc plutôt compliqué, parfois pas tout à fait lisible, mais qui vous permet d'avoir finalement l'histoire du monde sur vos timelines, sur votre ordinateur, et pour réviser ou pour écrire vos thèses, c'est vraiment le top du top. Pour ceux qui utilisent Scrivener, dont je vais probablement vous parler dans le prochain épisode, Aeon Timeline se synchronise très bien avec, c'est fait pour, ça a été créé pour ça. Scrivener, petite note, c'est un programme d'écriture sur Mac et sur PC, qui est vraiment génial. Je vous expliquerai pourquoi c'est beaucoup mieux que d'utiliser Word, etc. pour faire vos travaux. C'est top, n'hésitez pas à faire une recherche Google Scrivener pour voir ce à quoi ça ressemble. Mais j'en reparlerai la prochaine fois. C'était ma petite revue d'actualité, il y en aura d'autres dès que je trouve des trucs super intéressants à raconter. Et vous savez quoi, il y en a plein, parce qu'il y a plein de blogs d'anthropologie qui parlent de sujets de fous. À la prochaine.
And trust.